Garros, quelques jours après l'annonce de sa retraite imminente, Caroline Garcia a été éliminée hier dès le premier tour du tournoi de tennis, son dernier Roland-Garros. Richard Gasquet a lui prolongé l'aventure en s'imposant en 4-7.
Mais oui, les Français ont fait quand même une bonne journée hier. On va suivre ça chaque jour évidemment avec vous. Merci beaucoup Cécile Mérieux. On vous retrouve à 8h. Et Louis Dauphren, à quelques heures du vote solennel des propositions de loi relatives à la fin de vie, vous recevez ce matin deux députés.
Oui, si Dieu aide à vivre, l'État aide à mourir. On va voir comment les députés placés devant leurs responsabilités vont agir cet après-midi, puisque la liberté de vote est laissée. Ce qui d'ailleurs est constitutionnel dans l'État républicain. Normalement, vous savez, les partis politiques n'existent pas à l'Assemblée. On va demander à Charles Rodwell ce qu'il en pense. Mais dans le fondement de la République que la Révolution l'a voulu, chaque député représente la nation et donc c'est sa liberté intrinsèque qui doit être souligné aujourd'hui. Bonjour Charles Rodwell.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Diplômé de Sciences Po et député des Yvelines, première circonscription. Vous avez 28 ans, je crois.
Tout à fait.
Et donc vous allez voter cet après-midi. Est-ce que ce vote est secret ?
Non, il n'est pas secret, il est public. Et je vous remercie d'ailleurs de m'inviter ce matin pour en échanger. Je voterai favorablement pour le texte qui vise à soutenir le déploiement des soins palliatifs. Et je voterai contre, je m'opposerai au texte qui vise à légaliser l'aide à mourir, l'aide active à mourir, qui sera présenté en vote solennel, en première lecture, cet après-midi à l'Assemblée nationale.
En tant que député Renaissance, vous n'avez pas de consigne de vote, donc ?
Je n'ai pas de consigne de vote. C'est d'ailleurs normal, comme vous venez de le souligner, mais je remercie quand même mon parti, comme en fait la plupart des partis dans l'hémicycle, j'imagine excepté la France Insoumise, grand parti démocratique qui s'il en est de notre République, de donner une liberté de vote absolue à chaque député. Ce qui fait que ce qui est intéressant lors de tous les débats que nous avons eus, vous avez des députés de tous bords, du Rassemblement National jusqu'au Parti communiste, qui sont viscéralement opposés à ce texte, comme d'autres qui sont plutôt favorables à ce texte également dans tous les camps. Et donc, ce qui a fait que le débat était plutôt intéressant et à la hauteur ces dernières semaines à l'Assemblée nationale.
Pourquoi Sandrine Rousseau a-t-elle raison ?
Expliquez-moi.
Parce que justement, vous dites que le texte ne couvre pas un certain nombre de dispositions ou de réalités que l'on voudrait lui faire courir. Par exemple, certains cas qui ne sont pas pris en compte par le texte.
Alors, Sandrine Rousseau a pris la parole dans l'hémicycle. Je pense que c'est la première fois que je dis ça depuis le début de mon engagement politique, mais a raison, en expliquant qu'il y avait tromperie dans le débat, puisque beaucoup de personnes qui sont portées en étendard, de manière parfois un peu honteuse d'ailleurs, dans le débat public pour justifier ce texte, ne sont pas concernées par ce texte. Du fait de l'exclusion notamment des directives anticipées de ce texte, j'ai envie de vous dire, heureusement, un amendement de repli, les personnes qui sont portées en étendard dans le débat public, comme celles par exemple qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, ou celles plongées dans un coma profond, ne pourront pas faire appel à l'aide active à mourir.
Ou Charles Guétry.
Alors, Charles Guétry, au départ, dans le texte initial, maintenant il le pourra, puisque on a ajouté, enfin les députés qui ont voté pour ont ajouté un élément qui permet d'injecter, d'avoir une aide en fait à injection, à mettre dans la bouche si vous n'avez plus la possibilité d'utiliser vos membres. On en tire évidemment des conclusions différentes. Sandrine Rousseau est favorable à étendre l'aide active à mourir dans les semaines qui viennent après l'adoption du texte. Moi, je suis opposé à ce texte et je pense que sa prise de parole à elle justifie parfaitement le fait qu'il y aura des dérives inévitables à ce texte. Dès l'adoption de l'aide active à mourir, si elle est adoptée en lecture finale dans quelques mois, vous aurez de nouvelles propositions de loi qui sont déposées pour élargir tout de suite le champ d'application du texte qui sera adopté à l'Assemblée nationale.
Ça, c'est vous malheureux. Le percevez. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Ah, mais les prises de parole dans l'hémicycle. Vous avez un grand nombre de députés, et je respecte leur point de vue pour ceux qui ont travaillé le sujet, qui disent, chers collègues, il faut absolument adopter ce texte tout de suite. Comme ça, nous trouvons un point d'équilibre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et vous verrez, dans quelques jours, dans quelques semaines, nous pourrons déposer un nouveau texte de loi, une nouvelle proposition qui élargira les critères du texte que nous venons d'adopter. C'est public. Chacun d'entre ceux qui nous écoutent, qui ont suivi les débats à l'Assemblée, je sais qu'ils sont très nombreux, ont pu assister à ce type de prise de parole. C'est l'une des grandes raisons pour lesquelles je suis opposé à ce texte. Il n'y a pas de garde-fou dans ce texte. Il n'y a pas de garde-fou définitif. Et dès que cette proposition de loi sera adoptée, si elle l'est, il y aura inévitablement un élargissement du champ d'application à ce texte dans les semaines qui viennent.
Sur le fondement que sinon, il y aurait discrimination entre les personnes qui pourraient recourir à l'aide active à mourir et celles qui ne pourraient pas y recourir. C'est ce que dit Jean-Louis Touraine. Hein.
Oui, les arguments sont très variés, variables. Moi, les deux ou trois raisons principales pour lesquelles je suis opposé à ce texte sont celles qui sont portées par d'autres collègues, par exemple comme Philippe Juvin. D'abord, le champ d'application de ce texte n'est pas garanti. Je ne veux pas faire partie des députés qui ouvriront la boîte de Pandore. Deuxième élément, avant même de se poser la question de l'aide active à mourir, j'aimerais qu'on applique le texte qui existe déjà. Ma circonscription est concernée avec la fermeture de l'unité de soins palliatifs de Claire-Demeure et le transfert de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital de la Porte Verte à Versailles qui a réduit mécaniquement le nombre de lits. Aujourd'hui, le texte sur les soins palliatifs n'est pas appliqué. Il y a 20 départements en France qui n'ont toujours pas accès aux soins palliatifs, ce qui prouve bien que le texte voté il y a maintenant 20 ans n'est toujours pas appliqué dans notre pays aujourd'hui. Et puis le troisième sujet, c'est qu'il y a des dispositions que je trouve objectivement choquantes. Le fait que nous ayons maintenu, ou que les députés qui ont voté pour, parce que je n'ai évidemment pas fait partie de cela, ont maintenu le délit d'entrave et ont doublé les peines lié au délit d'entrave, est pour moi tout bonnement inacceptable. Et donc je ne veux pas faire partie des députés qui ouvriront la boîte de Pandore sur ce texte, même si je respecte l'avis de ceux qui voteront favorablement quand ils ont réfléchi au sujet.
Le délit d'entrave, donc, sera susceptible de 2 ans de prison, je crois. Hein
oui, de milliers d'euros d'amende. Ce qui est intéressant, c'est que les députés qui ont voté pour ont refusé, en revanche, de voter un délit d'incitation. C'est-à-dire qu'il vote contre le délit d'incitation, mais il vote délit d'entrave. Et ce qui fait que je considère, à titre personnel, que tout ceci manque de logique.
2 ans de prison, 30 000 euros d'amende pour le délit d'entrave. J'ai pu lire que certains pensaient que finalement c'est un texte qui interdisait le fait de vouloir aimer. Parce que quand on veut aimer quelqu'un et l'empêcher de recourir à un geste fatal, ça sera susceptible d'être un délit d'entrave.
C'était un des débats extrêmement difficiles dans cet hémicycle qui justifie en fait ma deuxième prise de position sur ce texte. Même si je suis opposé à ce texte, je suis plutôt favorable, depuis le début, à la séparation de ce projet de loi en deux textes. C'est ce que François Bayrou avait acté, et je l'en remercie, pour éviter que le soin palliatif soit cannibalisé, entre guillemets, par le sujet de l'aide active à mourir. Donc nous avons deux textes avec deux votes différents. Et la deuxième des choses, c'est que depuis le départ, je suis à titre personnel plutôt favorable à un référendum si la question devait se poser. J'aurais préféré que la question ne se pose pas. Mais puisque la question se pose, j'aurais préféré qu'on puisse consulter les Français directement par référendum, parce qu'à titre personnel, je me sens tout à fait légitime de représenter les 117 000 personnes de ma circonscription sur des sujets comme les réformes fiscales, les réformes liées à l'emploi, la réforme de l'État. Mais pour un sujet aussi intime, comme vous venez de l'évoquer à très juste titre, qui touche à la mort et donc à la vie de chacun, je considère que chaque citoyen français devrait avoir une voix égale pour s'exprimer sur un sujet aussi sensible que celui-ci.
Quelle question poseriez-vous ? Charles Rodwell.
Alors, la Constitution française, en fait, ne permet peut-être pas de poser une question. Elle permet simplement de soumettre un projet de loi, un texte de loi, au vote des Français. Et donc, peut-être que ce texte de loi aurait pu faire l'objet d'un référendum. Moi, je pense que tous ces sujets-là, il faut les toucher avec une prudence infinie. Mais j'aurais préféré qu'un texte de loi comme celui-ci soit soumis directement au vote des Français, afin que vous, par exemple, Louis Dauphren, vous puissiez avoir une voix égale à la mienne, pour exposer votre point de vue et pour décider de l'avenir de notre société, de notre pays, sur un sujet aussi important, aussi crucial, aussi cardinal.
Emmanuel Macron n'a pas exclu la voie du référendum si jamais le texte s'enlisait à l'Assemblée. Vous pensez que le parcours parlementaire sera plus incertain qu'on ne le dit, même si Catherine Vautrin dit que le texte ne devrait pas... il s'attend à ce qu'elle soit adoptée, cette proposition de loi, mais elle dit que le parcours sera peut-être plus incertain qu'on ne le dit. Est-ce que vous pensez que ce sera le cas ?
Dans notre combat, rien n'est perdu, si je puis dire, parce que le combat va être encore long. Et quand je parle de combat, il n'y a rien de violent de ma part. C'est un combat idéologique, culturel, politique, dans le sens le plus noble du terme. Moi, ce que je reconnais, pour le coup, dans les débats qu'on a eus depuis plusieurs semaines, c'est la qualité des échanges et le respect qui a été de chacun, où l'Assemblée a un tout petit peu retrouvé, si je puis dire, ses lettres de noblesse. Je crois que le texte va cheminer pendant un très très long moment, au Sénat, puis de retour à l'Assemblée nationale, et de nombreux, pour le coup, combats politiques et idéologiques nous attendent sur ce texte.
Charles Rodwell, je vous propose à présent d'échanger avec un autre député, un autre de vos pairs, Yannick Monet, député communiste de l'Allier, éducateur spécialisé, diplômé en ingénierie sociale et membre permanent de la Commission des affaires sociales. Bonjour Yannick Monet.
Bonjour.
Quelle position allez-vous prendre sur ce texte, donc, cet après-midi ?
Ben, sur ce texte, moi, je voterai favorablement à ces deux textes.
Dites-nous pourquoi.
Pardon ?
Dites-nous pourquoi.
Eh bien, parce que je considère aujourd'hui que ce texte, alors c'est celui qui fait débat, c'est le droit à l'aide à mourir. Pour moi, c'est fondamental que ce soit un droit. D'ailleurs, c'est un amendement que j'avais fait adopter en commission. Je considère que ce sont des textes aujourd'hui suffisamment équilibrés, que l'aide à mourir n'est pas un soin. Moi, je me suis battu pour que ce soit pas un soin, mais en tout cas, c'est un acte médical qui doit arriver une fois que toute la question des soins a été épuisée. Et en tout cas, il y a un certain nombre de conditions qui, à mon avis, sont réunies pour pouvoir adopter ce nouveau droit d'aide à mourir.
Alors, quelles sont ces conditions réunies précisément, puisque Charles Rodwell est en désaccord avec vous là-dessus?
Bah, écoutez, alors d'abord, moi je considère qu'on ne peut pas légiférer en craignant ce qui va se passer par la suite. Sinon, on ne légifère plus du tout. Et je rappelle que c'est le Parlement qui est souverain dans la loi. Donc il n'y a aucune raison d'anticiper des dérives. Ce sera à nous d'être vigilants pour qu'il n'y en ait pas, ça c'est clair. Il y a cinq conditions, il y a deux conditions administratives, mais il y a surtout trois conditions particulières, qui est d'être atteint d'une maladie incurable avec le pronostic vital engagé, en stade avancé ou terminal. Il y a la question des douleurs réfractaires à tout traitement. Et pour moi, le dernier point qui est fondamental, et je partage l'idée qu'il ne fallait pas mettre de directive anticipée, c'est la nécessité d'obtenir le consentement libre et éclairé de la personne qui sollicite l'aide à mourir, jusqu'au bout.
Et donc ça vous paraît être des garde-fous suffisants pour qu'il n'y ait pas de dérive telle que le texte va se présenter à l'Assemblée aujourd'hui ?
Ben aujourd'hui, oui. Tel que c'est envisagé. Moi, j'ai toujours considéré que le droit à l'aide à mourir, ça devait s'organiser comme droit d'exception. Quand il n'y a plus aucune solution et que la personne fait le choix de solliciter l'aide à mourir. En aucun cas, ça ne doit être un droit à défaut de soins. C'est pour ça que moi, je partageais la proposition du Premier ministre de séparer les deux textes, parce que je pense qu'on parle de deux sujets différents, même si ce sont des sujets éminemment liés. Et le premier texte qui vient garantir le droit d'accès aux soins palliatifs permet d'envisager l'aide à mourir comme une ultime solution quand les soins ne sont plus efficaces.
Sur le point de la mort naturelle, puisque la disposition dans le texte a été supprimée vendredi dernier, est-ce que vous étiez favorable à l'idée de supprimer cette disposition, c'est-à-dire de ne pas qualifier l'euthanasie de mort naturelle ?
Ah, tout à fait. Moi, j'ai porté cette idée-là, j'ai soutenu la proposition, parce que je pense qu'on peut pas, il faut dire la vérité. Si on est dans un système d'aide à mourir, ça ne peut en aucun cas être une mort naturelle. Bien sûr que j'ai défendu cette idée, comme j'ai défendu l'idée d'instaurer dans la loi, j'ai même co-signé l'amendement Valtou sur le délit d'incitation, parce que je pense que ça contribuait à l'équilibre avec le délit d'entrave. Je ne désespère pas que ce délit revienne en deuxième lecture, en tout cas dans la navette parlementaire. Mais voilà, moi je suis un favorable au texte, mais je ne suis pas un libéral de l'aide à mourir. Je pense vraiment qu'il faut se situer comme un droit d'exception.
Charles Rodwell.
Moi je respecte infiniment l'avis du collègue Monet qui s'exprime. Il y a deux choses avec lesquelles je suis d'accord avec lui. Un, il va mourir n'est pas un soin. Et la deuxième des choses, c'est que ce n'est pas une mort naturelle. Il y a un point sur lequel je voulais rebondir. Je partage l'avis de dire qu'il fallait séparer les deux textes. Je me suis exprimé sur ce sujet il y a quelques minutes. Mais la crainte principale que j'émets, et je pense qu'elle est légitime, c'est qu'aujourd'hui, on nous présente le sujet comme face à la mort. Lorsque vous souffrez, vous aurez finalement trois choix. Le fait de mourir d'une mort naturelle, le fait de mourir à travers les soins palliatifs ou les sédations profondes et continues, ou le fait de faire appel, dans les conditions qu'a édicté le collègue à l'instant, dans le cas d'une aide à mourir. Mais quand je regarde factuellement la réalité de ce qui se passe sur ma circonscription, l'unité de soins palliatifs est embolisée, les moyens ne sont pas suffisants. Je déposais d'ailleurs des amendements lors du PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, en ce sens. Et donc la crainte immense que j'ai, c'est qu'une personne qui souffre se retrouve dans la situation où, faute de pouvoir faire appel aux soins palliatifs, elle se retrouve avec un faux choix qui est de dire soit vous mourrez d'une mort, je dirais, naturelle en grande souffrance, soit, bah, vous, madame, monsieur, vous pouvez faire appel à l'aide active à mourir parce que vous n'avez pas de place dans l'unité de soins palliatifs à côté de chez vous. Et ça, c'est une crainte majeure, très concrète, que j'ai. Sur le point que fait le collègue sur la question de l'élargissement du champ d'application. Je ne suis pas très favorable au terme de dérive parce que je trouve qu'elle engage une forme de débat moral qui n'a pas tout à fait lieu sur ce texte. Moi, je considère à titre personnel que l'élargissement de ce champ d'application est inévitable parce que nous avons des exemples aujourd'hui aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada, où les législateurs d'il y a 15 ou 20 ans avaient dit la main sur le cœur et avec grande conviction que jamais le texte de loi sur l'euthanasie dans leur propre pays serait élargi et se ferait sujet à des dérives, comme disent certains.
La jurisprudence nous amène à penser l'inverse.
On voit très bien que ce n'est pas le cas.
Charles Rodwell, je vais demander à Yannick Monet, malheureusement on arrive au terme de cet entretien, de réagir à ce que vous avez dit, et précisément sur le fait, Yannick Monet, vous qui êtes à Moulins, dans l'Allier, cette belle ville de Moulins, dans le Bourbonnais, est-ce qu'elle a suffisamment de soins palliatifs pour qu'il n'y ait pas de faux choix à l'arrivée? Rapidement, s'il vous plaît, Yannick Monet.
Moi, à Moulins, j'ai passé beaucoup de temps à échanger avec les personnels. On a un service de soins palliatifs, des lits réservés. Il n'y a pas d'unité spécifique à Moulins, il y en a une à Vichy. Mais il est clair, et là je m'adresse aux députés du bloc central, de la majorité, ne proposez pas un budget de la sécurité sociale réduit. Pas de rigueur budgétaire sur la question des soins, parce que c'est quand même ça la difficulté aujourd'hui. L'hôpital public, il manque 3 milliards. Donc moi, je serai avec tous les députés qui porteront un budget en hausse pour la santé, pour que justement, on ne soit pas confronté à ce qui serait pour moi un scandale, que les gens soient obligés de choisir entre l'accès aux soins.
Absolument. On vous a bien compris. Ah. Charles Rodwell vous répond en 10 secondes.
Alors, j'entends parfaitement ce que le collègue Monet dit à l'instant, et je lui demande en retour, est-ce qu'il est d'accord pour soutenir nos propositions d'économie sur les dépenses des collectivités, de l'État et une partie de la protection sociale pour financer cet accès aux soins? C'est le sens des amendements que nous déposerons et j'espère que nous pourrons les co-signer ensemble.
Merci à tous les deux. Charles Rodwell et Yannick Monet, je vous remercie d'avoir participé à cet échange.
Et on continue évidemment de parler de fin de vie dans cette matinale. Dans 20 minutes, nous serons avec le philosophe Damien Le Gouët.